Comment ça se fait que t'es pas à l'école? Y a pas d'école aujourd'hui?
Regarde-moi.
T'as séché? Eh, tu peux me le dire, hein, je m'en fous, moi. Ouais. Dans quelle classe tu es?
9e.
9e. Tu sais lire au moins?
Pas tout.
Pas tout? Qu'est-ce que ça veut dire, pas tout? On sait lire ou on sait pas lire? Hein? Qu'est-ce que tu sais lire, par exemple? Les bandes dessinées?
Oui.
Ça peut pas faire de mal.
Pourquoi tu vas pas à l'école?
Parce que j'aime pas ça.
T'aimes pas ça? Mais c'est bien l'école, il y a tes copains.
J'aime pas ma maîtresse.
Et pourquoi t'aimes pas ta maîtresse?
Parce qu'elle m'aime pas. Mais l'école, toi, quand t'étais petit?
Tu veux un autre diabolo?
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Commençons par l'épilogue. Maman quasi centenaire devant un film sur un auteur qu'elle connaît bien. On voit l'auteur chez lui à Paris, entouré de ses livres dans sa bibliothèque qui est aussi son bureau. La fenêtre ouvre sur une cour d'école, un raffut de récré. On apprend que pendant un quart de siècle, l'auteur exerça le métier de professeur et que s'il a choisi cet appartement donnant sur deux cours de récréation, c'est à la façon d'un cheminot qui prendrait sa retraite au-dessus d'une gare de triage. Nouveau bureau, ouvert sur la splendeur alpine cette fois. Ces scènes sont ponctuées par des interviews d'artistes que l'auteur admire. Le cinéaste et romancier d'ICG, le dessinateur Sampé, le chanteur Thomas Fersen, le peintre Jürg Kreinbühl. Retour à Paris, l'auteur derrière son ordinateur parmi ses dictionnaires. Il en a la passion, dit-il. On apprend d'ailleurs, et c'est la conclusion du film, qu'il y est entré dans le dictionnaire. Le Robert, à la lettre P, sous le nom de Pénac, de son nom entier Pénacchioni, Daniel de son prénom.
Vous nous expliquez, et vous rassurez tout le monde, que lorsque vous étiez élève, vous ne compreniez pas.
J'étais totalement inhibé, je ne comprenais absolument rien à rien, dans aucune matière. Et évidemment, ça m'amenait à ne même pas comprendre ce que je fichais là, ouais. Puisque je ne produisais pas de résultats. J'étais le dernier de ma classe, et voilà. Inhibition inexplicable.
Maman, donc, regarde ce film en compagnie de mon frère Bernard qui l'a enregistré pour elle. Elle le regarde d'un bout à l'autre, immobile dans son fauteuil, l'œil fixe, sans pipe et mot, dans le soir qui tombe. Fin du film, générique, silence. Puis, se tournant lentement vers Bernard, elle demande « Tu crois qu'il s'en sortira un jour ?» C'est que je fus un mauvais élève et qu'elle ne s'en est jamais tout à fait remise. Aujourd'hui que sa conscience de très vieille dame quitte les plages du présent pour refluer doucement vers les lointains archipels de la mémoire, les premiers récifs à ressurgir lui rappellent cette inquiétude qui la rongea pendant toute ma scolarité. Très tôt, mon avenir lui parut si compromis qu'elle ne fut jamais tout à fait assurée de mon présent. Cette scène croquée avec tendresse ouvre l'un des livres les plus célèbres de Daniel Pénac, « Chagrin d'école », paru il y a tout juste 10 ans. 10 ans comme l'âge de son personnage principal, à mi-chemin sur le long calvaire de la scolarité. Un garçon réfractaire à toute forme d'apprentissage, qui n'est autre que l'auteur lui-même. Un enfant affublé à l'époque de ses hauts faits du titre de cancre de la famille.
Révision des dates importantes du 15e au 18e siècle. Falipou, 1572.
Le massacre de Saint-Barthélemy.
Des Mousseaux, 1685. Eh bien, Des Mousseaux, tu m'entends ? Des Mousseaux, debout, s'il te plaît. Des Mousseaux, c'est par ici que ça se passe. Regarde-moi. Tu comprends ? Regarde-moi.
À travers ce livre, faut-il l'appeler roman, essai, tentative d'autobiographie ? L'écrivain retrace le parcours du combattant que fut pour lui le passage du statut de mauvais élève à celui de professeur. Autant dire comment une forte tête, passée maître dans l'art d'ouvrir le coffre-fort paternel, l'anecdote est véridique, a pu accepter de passer à l'ennemi.
Le clou. Le clou. Excuse-moi de te réveiller. Tu as l'air complètement hagard. Avoir l'air hagard, c'est avoir l'air égaré.
Ce soir, ouvrons ce livre au ton facétieux, parfois mélancolique, souvent révolté, qui donne à réfléchir sur le dysfonctionnement de l'enseignement et nous invite aussi à déceler un mal récurrent derrière l'échec scolaire, l'indifférence à l'autre dans une société marchande de plus en plus brutale. En matière d'éducation, on dit souvent que tout se joue avant 6 ans. Voyons ce que nous réserve le narrateur à cet âge fatidique qui déterminera toute sa scolarité. Chaque soir de mon enfance, je rentrais à la maison poursuivi par l'école. Mes carnets disaient la réprobation de mes maîtres. Quand je n'étais pas le dernier de ma classe, c'est que j'en étais l'avant-dernier. Champagne. Fermé à l'arithmétique d'abord, aux mathématiques ensuite, profondément dysorthographique, rétif à la mémorisation des dates et des lieux, inapte à l'apprentissage des langues étrangères, réputé paresseux, je rapportais à la maison des résultats pitoyables qui avaient le don d'exaspérer mon père. Tu comprends ? Est-ce qu'au moins tu comprends ce que je t'explique ? Je ne comprenais pas. Cette inaptitude à comprendre remontait si loin dans mon enfance que la famille avait imaginé une légende pour en dater les origines, mon apprentissage de l'alphabet. J'ai toujours entendu dire qu'il m'a fallu une année entière pour retenir la lettre A en un an. Le désert de mon ignorance commençait au-delà de l'infranchissable B. Pas de panique, dans 26 ans, il possédera parfaitement son alphabet. Ainsi ironisait mon père pour distraire ses propres craintes. Bien des années plus tard, comme je redoublais ma terminale à la poursuite d'un baccalauréat qui m'échappait obstinément, il aura cette formule « Ne t'inquiète pas, même pour le bac, on finit par acquérir des automatismes. » Ou, en septembre 1968, ma licence de lettres enfin en poche, « Il t'aura fallu une révolution pour la licence, doit-on craindre une guerre mondiale pour l'agrégation ?» Cela dit, sans méchanceté particulière, c'était notre forme de connivence. Nous avons assez vite choisi de sourire, mon père et moi.
Venez, apportez-moi ce que vous avez là. Bravo ! Nous avons un nouveau Juvénal dans la classe. Mais il est encore incapable de distinguer un alexandrin d'un décasyllabe. Vous allez me conjuguer pour demain, à tous les temps de l'indicatif. Je dégrade les murs de la classe et je malmène la prosodie française.
Héros malgré lui de la légende familiale, le narrateur ne cache pas son désarroi.
Française !
Quelques pages plus tard, découvrons le jeune garçon livré à lui-même et la leçon qu'en tirera le futur professeur. Pourtant, extérieurement, sans être agité, j'étais un enfant vif et joueur. Plutôt bavard et rieur, farceur même, je me faisais des amis à tous les étages de la classe. Des cancres, certes, mais des têtes de série aussi. Je n'avais pas de préjugés. Plus que tout, certains professeurs me reprochaient cette gaieté. C'était ajouter l'insolence à la nullité. La moindre des politesses pour un cancre, c'est d'être discret. Morné serait l'idéal. Seulement ma vitalité m'était vitale, si je puis dire. Le jeu me sauvait du chagrin qui m'envahissait dès que je retombais dans ma honte solitaire. Mon Dieu, cette solitude du cancre dans la honte de ne jamais faire ce qu'il faut et cette envie de fuir. J'ai ressenti assez tôt l'envie de fuir. Pour où ? Assez confus. Fuir de moi-même, disons. Et pourtant en moi-même. Mais un moi qui aurait été acceptable par les autres. C'est sans doute à cette envie de fuir que je dois l'étrange écriture qui précéda mon écriture. Au lieu de former les lettres de l'alphabet, je dessinais des petits bonshommes qui s'enfuyaient en marge pour s'y constituer en bande. Je m'appliquais pourtant au début. J'ourlais mes lettres, tant bien que mal. Mais peu à peu, les lettres se métamorphosaient d'elles-mêmes en ces petits êtres sautillants et joyeux qui allaient folâtrer ailleurs. Idéogramme de mon besoin de vivre. Aujourd'hui encore, j'utilise ces bonshommes dans mes dédicaces. C'est la bande de mon enfance. Je lui reste fidèle. Adolescent, j'ai rêvé d'une bande plus réelle. Mes camarades de jeu ne me suffisaient pas. Ah, me fondre dans une bande où la scolarité n'aurait compté pour rien. Quel rêve ! Ce qui faisait l'attrait d'une bande, s'y dissoudre avec la sensation de s'y affirmer. La belle illusion d'identité. Tout pour oublier ce sentiment d'étrangeté absolue à l'univers scolaire et fuir ces regards d'adultes dédains. Opposer un sentiment de communauté à cette perpétuelle solitude, un ailleurs à cet ici, un territoire à cette prison. Quitter l'île du cancre à tout prix, fût-ce sur un bateau de pirates où ne régnerait que la loi du poing qui mènerait au mieux en prison. Je les sentais tellement plus forts que moi, les autres, les professeurs, les adultes, et d'une force tellement plus écrasante que le poing, si admise, si légale, qu'il m'arrivait d'en éprouver un besoin de vengeance proche de l'obsession. Quatre décennies plus tard, l'expression « avoir la haine » ne me surprit pas quand elle apparut dans la bouche de certains adolescents. Multipliée par quantité de facteurs nouveaux, sociologiques, culturels, économiques, elle exprimait encore ce besoin de vengeance qui m'avait été si familier. Mais mes camarades de jeu n'étaient pas de ceux qui se constituent en bande. Et je n'étais originaire d'aucune cité. Je fus donc une bande de jeunes à moi tout seul, comme dit la chanson de Renaud. Une bande bien modeste, avec mes petits bonshommes fous. À tous ceux qui aujourd'hui imputent la constitution de bandes au seul phénomène des banlieues, je dis, vous avez raison, oui, le chômage, oui, la concentration des exclus, oui, les regroupements ethniques, oui, la tyrannie des marques, la famille monoparentale, oui, le développement d'une économie parallèle et les trafics en tout genre, oui, oui, oui. Mais gardons-nous de sous-estimer la seule chose sur laquelle nous pouvons personnellement agir et qui, elle, date de la nuit des temps pédagogiques, la solitude et la honte de l'élève qui ne comprend pas, perdu dans un monde où tous les autres comprennent. Nous seuls, professeurs, pouvons le sortir de cette prison-là.
J'avais peur.
Daniel Pénac.
C'est tout bêtement la peur de ne pas répondre juste à la question posée. Dès lors que on ne répond pas juste à la question posée et que la réponse est une immédiate réponse sous-tendue par le désir d'évaluation, on est foutu. Alors, d'abord, on a déçu l'adulte qui est en face de soi. Ensuite, on rentre à la maison, et à la maison, on vous dit « ça s'est bien passé à l'école ?» On répond bien entendu « oui » pour rassurer les parents. Autrement dit, nous voilà déjà dès le départ, la première conséquence de cette peur, c'est le mensonge. Cette peur engendre de la honte. Je me sentais tellement avili par cette affaire sociale désastreuse qu'était mon apprentissage scolaire que j'étais persuadé qu'on ne m'aimait pas.
Je me suis chopé 500 lignes, je ne dois pas parler en classe. Ras-le-bol de la discipline, il y en a marre, c'est dégueulasse. C'est même pas moi qui parlais, moi je répondais à Arthur, qui me demandait en anglais comment s'écrit nos futurs. Si on est puni pour ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? C'est quand même un peu galère d'aller chaque jour au chagrin. Quand t'as tellement de gens sur terre qui vont pointer chez Fourien. Vu que les devoirs à la maison, je fais ma semaine de 60 heures. Non seulement pour pas un rond, mais en plus pour finir chômeur. Veulent me gaver comme une oie avec des matières indigestes. J'aurais oublié tout ça quand j'aurais appris tout le reste. Soulève un peu mon cartable, est lourd comme un cheval mort. 10 kilos d'indispensable, théorème de Pythagore. Si je dois m'avaler tout ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? L'essentiel à nous apprendre, c'est l'amour des livres qui fait que tu peux voyager de ta chambre autour de l'humanité. C'est l'amour de ton prochain, même si c'est un beau salaud. La haine, ça n'apporte rien, puis elle viendra bien assez tôt. Si on nous apprend pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? Quand je serai grande, je veux être heureuse, savoir dessiner un peu, savoir me servir d'une perceuse, savoir allumer un feu. Jouer peut-être du violoncelle, avoir une belle écriture, pour écrire des mots rebelles, à faire tomber tous les murs. Si l'école permet pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? Tu dis que si les élections, ça changeait vraiment la vie. Il y a un bout de temps, mon colon, que voter, ça serait interdit. Ben si l'école, ça rendait les hommes libres et égaux, le gouvernement déciderait que c'est pas bon pour les marmots. Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Et maintenant, papa, c'est quand qu'on va où? Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Et maintenant, papa, c'est quand qu'on va où?
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Quand tu peux me regarder, va. C'est pas moi qui vais le faire, ton devoir. T'as perdu ta langue ou quoi?
Alors, qu'est-ce qu'il y a qui a pas?
Ça fait 2 heures qu'elle est assise là, elle a pas écrit une ligne.
Ah ben, je vais l'aider, elle va y arriver.
Je pense que je vais faire avec elle.
Bah, attendez.
Pire que la solitude, il est une autre prison qui enferme les mauvais élèves, la certitude de ne pas avoir d'avenir. Que va-t-il devenir? Demande la mère, rongée d'inquiétude. Aucun avenir, répondent en chœur les enseignants. C'est cette condamnation sans appel qui révolte ici le narrateur, qu'il soit élève ou professeur. Des enfants qui ne deviendront pas. Des enfants désespérants. Écoliers, puis collégiens, puis lycéens, j'y croyais dur comme fer moi aussi à cette existence sans avenir. C'est même la toute première chose dont un mauvais élève se persuade. Avec des notes pareilles, qu'est-ce que tu peux espérer? Tu t'imagines que tu vas passer en 6e, en 5e, en 4e, en 3e, en 2e? Combien de chances au bac d'après vous? Faites-moi plaisir, calculez vous-même vos chances. Ou cette directrice de collège dans un vrai cri de joie. Vous, Pennacchioni, le BEPC, vous ne l'aurez jamais. Vous m'entendez? Jamais. Elle en vibrait. En tout cas, je ne deviendrai jamais comme toi, vieille folle. Je ne serai jamais prof, araignée engluée dans ta propre toile, garde-chiourme vissée à ton bureau jusqu'à la fin de tes jours. Jamais. Nous autres, les élèves, nous passons, vous, vous restez. Nous sommes libres et vous en avez pris pour perpète. Nous, les mauvais, nous n'allons nulle part, mais au moins nous y allons. L'estrade ne sera pas l'enclos minable de notre vie. Mépris pour mépris, je me raccrochais à ce méchant réconfort. Nous passons, les profs restent. C'est une conversation fréquente chez les élèves de fond de classe. Les cancres se nourrissent de mots. J'ignorais alors qu'il arrive au professeur de l'éprouver aussi, cette sensation de perpétuité. Rabâcher indéfiniment les mêmes cours devant des classes interchangeables, crouler sous le fardeau quotidien des copies, je ne pouvais m'imaginer que certains d'entre eux souffrent bel et bien de rester assis là, quand passent les élèves. Décrocher son agrègue, achever sa thèse, passer à la fac. Je ne savais pas que la tête des professeurs était saturée d'avenir. Je ne les croyais là que pour m'interdire le mien. Interdit d'avenir. À force de me l'entendre répéter, je m'étais fait une représentation assez précise de cette vie sans futur. Ce n'était pas que le temps cesserait de passer, non. C'était que j'y serais pareil à ce que j'étais aujourd'hui. J'étais nullité scolaire et je n'avais été que cela. Bien sûr, le temps passerait, bien sûr, la croissance, bien sûr, les événements, bien sûr, la vie, mais je traverserais cette existence sans aboutir à aucun résultat. C'était beaucoup plus qu'une certitude, c'était moi. De cela, certains enfants se persuadent très vite, et s'ils ne trouvent personne pour les détromper, comme on ne peut vivre sans passion, ils développent, faute de mieux, la passion de l'échec. Il faudrait un temps particulier pour l'apprentissage, le présent d'incarnation, par exemple. Je suis ici, dans cette classe, et je comprends enfin. Ça y est, mon cerveau diffuse dans mon corps, ça s'incarne. Quand ce n'est pas le cas, quand je n'y comprends rien, je me délite sur place. Je me désintègre dans ce temps qui ne passe pas. Je tombe en poussière et le moindre souffle m'éparpille. Seulement pour que la connaissance ait une chance de s'incarner dans le présent d'un cours, il faut cesser d'y brandir le passé comme une honte et l'avenir comme un châtiment.
Tu leur demandes de dessiner un train. Au bout de 2 minutes, ça rate pas. Zelle, il faut que je dessine tous les wagons. Oui, mon petit, tu dessines tous les wagons avec la fumée, tout, la locomotive, tout. Hein, tu penses que tu vas être tranquille, quoi. Parle. Tut, y en a un qui démarre, il y a tous les autres qui enchaînent. Tut. Et si c'est une vache qui dessine?
Meme.
Garde chiant. Est-ce qu'on n'est rien d'autre, hein? Non, mais on y vèle par le bord. Je me demande qui a bien pu décréter que l'école devait être obligatoire, hein. 4 ans de lycée technique pour finir chômeur.
On leur apprend tout petit à être pauvre, hein, pour qu'ils s'habituent. La seule chose que tu peux faire pour les gosses, c'est les aimer.
Après la colère, découvrons le regard amusé que Daniel Pennac porte sur ses années de collégien. Envoyé en pension à la montagne, le jeune garçon y fait les 400 coups. paresseux, allergique au devoir, le narrateur s'amuse ici à évoquer quelques trouvailles invoquées par ses camarades au moment de rendre leur copie blanche. Le cas de l'externe qui a essayé bravement mais en vain de faire son devoir n'est guère différent de celui du pensionnaire. Lui aussi entre en classe détenteur d'une vérité difficilement recevable. « Monsieur, j'ai consacré hier 2 heures à ne pas faire mon devoir. » « Non, non, je n'ai pas fait autre chose. Je me suis assis à la table, j'ai sorti mon cahier de texte, j'ai lu l'énoncé et pendant 2 heures, je me suis retrouvé dans un état de sidération mathématique. Une paralysie mentale dont je ne suis sorti qu'en entendant ma mère m'appeler pour passer à table. Vous le voyez, je n'ai pas fait votre devoir, mais j'y ai bel et bien consacré ces 2 heures. Après le dîner, il était trop tard. Une nouvelle séance de catalepsie m'attendait. Mon exercice d'anglais. » Si vous écoutiez davantage en classe, vous comprendriez vos énoncés, peut objecter à juste titre le professeur. Pour éviter cette humiliation publique, notre externe préférera lui aussi une présentation diplomatique des faits. J'étais occupé à lire l'énoncé quand la chaudière a explosé. Et ainsi de suite, du matin au soir, de matière en matière, de professeur en professeur, de jour en jour, dans une exponentielle du mensonge qui aboutit à la fameuse réplique de François Truffaut.
Ah, te voilà, toi. Alors, il suffit d'un devoir supplémentaire pour te rendre malade, hein? Et les parents tombent dans le panneau. Je serais curieux de savoir ce que tu leur as soutiré comme excuse, moi. Fais voir ton mot.
T'en ai pas, monsieur.
Ah, t'en as pas. Et tu crois que ça va se passer comme ça? Ce serait trop facile, mon ami.
Monsieur, c'était ma mère, monsieur.
Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore?
Elle est morte.
Retrouvons notre narrateur en dernière année de collège. C'est en 1959, en classe de 3e, qu'un petit miracle a lieu, qui le mettra sur la voie de l'enseignement 10 ans plus tard. Février 1959, septembre 1969, les 10 années où je suis devenu. À quoi tient la métamorphose du cancre en professeur et accessoirement celle de l'analphabète en romancier? C'est évidemment la première question qui vient à l'esprit. Comment suis-je devenu? Après tout, les cancres perdus à vie sont les plus nombreux. J'ai toujours eu le sentiment d'être un rescapé. Bref, que s'est-il passé en moi ces 10 années? Une constatation préalable. Adultes et enfants, on le sait, n'ont pas la même perception du temps. C'est si vite passé 10 ans quand on en a 50. Mais pour un adolescent, lui parler de l'avenir, c'est lui demander de mesurer l'infini avec un décimètre. L'avenir, c'est moins en pire. Voilà en gros ce que je traduisais quand mes professeurs m'affirmaient que je ne deviendrais jamais rien. Mais devenu professeur, je suis d'instinct qu'il était vain de brandir le futur sous le nez de mes plus mauvais élèves. À chaque jour suffit sa peine, et à chaque heure de la journée, pourvu que nous y soyons pleinement présents, ensemble. Or, enfant, je n'y étais pas du tout. Il me suffisait de pénétrer dans une classe pour en sortir. Comme un de ces rayons tombés des soucoupes volantes, il me semblait que le regard vertical du maître m'arrachait à ma chaise et m'expédiait instantanément ailleurs. Où cela ? On me recrachait comme un détritus et je roulais dans un champ d'épandage où je ne pouvais comprendre ni ce qu'on m'enseignait, ni d'ailleurs ce que l'école attendait de moi puisque j'étais réputé incapable. Puis vint mon premier sauveur, un professeur de français, en 3e, qui me repéra pour ce que j'étais, un affabulateur sincère et joyeusement suicidaire. Épaté sans doute par mon aptitude à fourbir des excuses toujours plus inventives pour mes devoirs non faits, il décida de m'exonérer de dissertation pour me commander un roman. Un roman que je devais rédiger dans le trimestre à raison d'un chapitre par semaine. Sujet libre, mais prière de fournir mes livraisons sans faute d'orthographe, histoire d'élever le niveau de la critique. Je me rappelle cette formule alors que j'ai tout oublié du roman lui-même. Ce professeur était un très vieil homme qui nous consacrait les dernières années de sa vie. Un vieux monsieur, d'une distinction désuète, qui avait donc repéré en moi le narrateur. Il s'était dit que, dysorthographie ou pas, il fallait m'attaquer par le récit si l'on voulait avoir une chance de m'ouvrir au travail scolaire. J'écrivis ce roman avec enthousiasme. J'en corrigeais scrupuleusement chaque mot à l'aide du dictionnaire, qui de ce jour-là ne me quitte plus, et je livrais mes chapitres avec la ponctualité d'un feuilletoniste professionnel. Je ne crois pas avoir fait de progrès substantiel en quoi que ce soit cette année-là, mais pour la première fois de ma scolarité, un professeur me donnait un statut. J'existais scolairement aux yeux de quelqu'un, comme un individu qui avait une ligne à suivre et qui tenait le coup dans la durée. Reconnaissance éperdue pour mon bienfaiteur, évidemment. Et quoi qu'il fût assez distant, le vieux monsieur devint le confident de mes lectures secrètes. Alors, que lit-on Pennacchioni en ce moment? Car il y avait la lecture. Je ne savais pas alors qu'elle me sauverait.
Les professeurs que j'ai rencontrés à la fin de ma vie m'ont sauvé. Exactement comme quelqu'un qui plongerait dans la Seine sauverait un noyé, en train de se noyer. Oui, ils m'ont sauvé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de cancrerie, on peut très bien... Parce qu'on compense quand on est cancre. On se contente pas d'être cancre. On se met à voyouter, à déconner de plus en plus gravement. Si j'avais été, moi, un môme de la zone, etc., comme en plus de ça, j'étais assez physique et que j'avais ni peur des coups, ni peur d'en prendre, ni peur d'en donner, j'aurais très bien pu mal tourner. Eh bien, les professeurs qui m'ont sauvé m'ont, entre autres, sauvé de ça, de ce terme-là, de l'alternative. Ils m'ont sauvé. Ils m'ont sauvé comme on sauve quelqu'un.
Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend, et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est ta préférée? Et Cosma. Et chaque fois, les feuilles montent, te rappellent mon souvenir. Jour après jour, les amants. N'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne. Mais la chanson est monotone. Et peu à peu, je m'indiffère. À celle-là, il n'y a rien à faire. Chaque fois, les feuilles mortes te rappellent mon souvenir. Jour après jour, les amants mentent, n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence? Passe le temps, vienne l'hiver, et que la chanson de préfère, cette chanson, les feuilles mentent, s'efface de mon souvenir, et ce jour-là. Et ce jour-là, mes amants mentent, en auront fini de mourir.
Thank you. souvenez de vos premiers souvenirs de lecture?
Ah, moi, c'était Alexandre Dumas. J'étais pensionnaire et à une époque où, figurez-vous, on n'avait pas le droit de lire. C'est-à-dire qu'on considérait que lire des romans, c'était... On nous fauchait nos romans, les surveillants dans les études.
C'était une distraction inutile, c'est ça?
Donc on lisait au lit. Et je lisais, moi, c'était Dumas.
Retrouvons désormais le narrateur au seuil de l'âge adulte. C'est au lycée que le jeune homme fait trois autres rencontres décisives. Son professeur de philosophie, qui des années plus tard avouera ne pas se souvenir de Daniel Pennacchioni, une prof d'histoire et un prof de maths particulièrement tenace. Voici l'hommage que leur rend l'écrivain. Tout bien réfléchi, ces trois professeurs n'avaient qu'un point commun, ils ne lâchaient jamais prise. Ils ne s'en laissaient pas compter par nos aveux d'ignorance. Combien de dissertations Mademoiselle J me fit-elle refaire pour cause d'orthographe défaillante? Combien de cours supplémentaires Monsieur Ball me donna-t-il parce qu'il me trouvait l'air vacant dans un couloir ou rêvassant dans une salle de permanence? Et si nous faisions un petit quart d'heure de maths, Pennacchioni, tant que nous y sommes? Allons-y, un bon petit quart d'heure! L'image du geste qui sauve de la noyade, la poigne qui vous tire vers le haut malgré vos gesticulations suicidaires, cette image brute de vie d'une main agrippant solidement le col d'une veste est la première qui me vient quand je pense à eux. En leur présence, en leur matière, je naissais à moi-même. Mais un moi mathématicien, si je puis dire, un moi historien, un moi philosophe, un moi qui, l'espace d'une heure, m'oubliait un peu, me flanquait entre parenthèses, me débarrassait du moi qui, jusqu'à la rencontre de ses maîtres, m'avait empêché de me sentir vraiment là. Autre chose, il me semble qu'ils avaient un style. Ils étaient artistes dans la transmission de leur matière. À croire que Mademoiselle J ressuscitait l'histoire, que Monsieur Ball redécouvrait les mathématiques, que Socrate s'exprimait par la bouche de Monsieur S. Il nous donnait des cours aussi mémorables que le théorème, le traité de paix ou l'idée fondamentale qui en constituait ce jour-là le sujet. En enseignant, il créait l'événement. Avançons dans le temps et découvrons quel professeur atypique est devenu le narrateur. Après les souvenirs d'enfance, l'auteur évoque les principes qu'il a appliqués tout au long de sa carrière d'enseignant, qui a duré 15 ans. Il défend les vertus de la dictée et la fréquentation des grands auteurs. Amoureux de littérature, il remet au goût du jour une méthode qui scandalise les élèves comme leurs parents, l'apprentissage par cœur. Le voici qui se lance dans un plaidoyer tout aussi lyrique qu'amusant pour le plaisir de l'exercice de style. Comment, monsieur Pennacchioni, vous leur faites apprendre des textes par cœur? Mais mon fils n'est plus un enfant. Votre fils, chère madame, n'en finira jamais d'être un enfant de la langue. Et vous-même, un tout petit bébé. Et moi, un marmot ridicule. Et tous autant que nous sommes menus fretins charriés par le grand fleuve jailli de la source orale des lettres, et votre fils aimera savoir en quelle langue il nage, ce qu'il porte, le désaltère et le nourrit, et se faire lui-même porteur de cette beauté, et avec quelle fierté. Il va adorer ça. Faites-lui confiance, le goût de ses mots dans sa bouche, les fusées éclairantes de ses pensées dans sa tête, et découvrir les capacités prodigieuses de sa mémoire. Son infinie souplesse, cette caisse de résonance, ce volume inouï où faire chanter les plus belles phrases, sonner les idées les plus claires. Il va en raffoler de cette natation sublinguistique lorsqu'il aura découvert la grotte insatiable de sa mémoire. Il adorera plonger dans la langue, y pêcher les textes en profondeur, et tout au long de sa vie les savoir là, constitutifs de son être, pouvoir se les réciter à l'improviste, se les dire à lui-même pour la saveur des mots. Il ira peut-être même jusqu'à les dire à quelqu'un d'autre, pour le partage, pour les jeux de la séduction ou pour faire le cuistre, c'est un risque à courir. Ce faisant, il renouera avec ces temps d'avant l'écriture, où la survie de la pensée dépendait de notre seule voix. Si vous me parlez régression, je vous répondrai retrouvaille. Le savoir est d'abord charnel. Ce sont nos oreilles et nos yeux qui le captent, notre bouche qui le transmet. Certes, il nous vient des livres, mais les livres sortent de nous. Ça fait du bruit, une pensée. Et le goût de lire est un héritage du besoin de dire. Ah, un dernier mot. Ne vous inquiétez pas, chère madame, pourrais-je ajouter aujourd'hui à cette maman qui, de génération en génération, ne change pas. toute cette beauté dans la tête de vos enfants, ce n'est pas ce qui va les empêcher de chatter phonétique avec leurs petits copains sur la toile, ni d'envoyer ces SMS qui vous font pousser des cris d'orfraie. Mon Dieu, quelle orthographe! Comment s'expriment les jeunes aujourd'hui? Mais que fait l'école? Rassurez-vous, en faisant travailler vos enfants, nous n'entamerons pas votre capital d'inquiétude maternelle. Laissons les chats aux adolescents. C'est une toute autre colère aujourd'hui que le narrateur laisse éclater. Après avoir traversé les difficultés propres aux différents âges de la vie, nous voici parvenus au stade de la maturité. Daniel Pennac est devenu le célèbre écrivain que l'on sait. Le voici la veille d'une rencontre avec des lycéens dans une chambre d'hôtel. Il regarde la télévision et s'insurge contre le déversement de violence dont il est le témoin. J'éteins. Pas moyen de trouver le sommeil. Je suis tenté d'opter à mon tour pour un pessimisme d'apocalypse. Paupérisation systématique d'un côté, terreur et barbarie généralisée de l'autre. Dans tous les cas, disparition de l'homme en chair, en os et en esprit. Et les médias orchestrant cet opéra sanglant où les commentaires laissent à penser que potentiellement tous les gosses de banlieue pourraient courir les rues pour zigouiller leurs prochains. La place de l'éducation là-dedans, de l'école, celle de la culture, du livre, de la raison, de la langue. À quoi bon me rendre demain dans ce lycée d'enseignement général et technologique si les élèves que je vais y rencontrer sont censés avoir passé la nuit dans les entrailles de cette télévision? Sommeil, réveil, douche, la tête sous l'eau froide, un bon moment. Bon Dieu, l'énergie qu'il faut pour revenir à la réalité après avoir vu ça. Nom d'un chien, l'image qu'à partir de ces quelques cinglés on nous donne de la jeunesse, je la refuse. Entendons-nous bien, je ne nie pas la réalité de ce reportage, je ne sous-estime pas les dangers de la délinquance. Comme tout un chacun, les formes contemporaines de la violence urbaine m'horrifient. Je crains la chiennerie de la meute, je n'ignore pas non plus la douleur de vivre dans certains quartiers périphériques. J'y sens le danger des communautarismes, je sais très bien entre autres la difficulté d'y naître fille et d'y devenir femme. Je mesure les risques extrêmes où s'y trouvent exposés des enfants issus d'une ou deux générations de chômeurs, quelle proie ils constituent pour les trafiquants de tout poil. Je sais cela, je ne minimise pas les difficultés des professeurs confrontés aux élèves les plus déstructurés de cet effroyable gâchis social. Mais je refuse d'assimiler à ces images de violence extrême, tous les adolescents de tous les quartiers en péril. Et surtout, surtout, je hais cette peur du pauvre que ce genre de propagande attise à chaque nouvelle période électorale. Honte à ceux qui font de la jeunesse la plus délaissée un objet fantasmatique de terreur nationale. Ils sont la lie d'une société sans honneur qui a perdu jusqu'au sentiment de la paternité. Critique, l'écrivain l'est aussi sur la position qui consiste à encenser l'école. Est-ce à dire que l'ancien cancre prend ici sa revanche sur les bons élèves? Conscient des dysfonctionnements de l'école, le professeur pointe plutôt le vrai problème. Et si l'enseignement, incapable de réduire l'inégalité des chances, finissait par exclure autant les bons que les mauvais? Voici ce nouveau coup de colère qu'il développe quelques pages plus loin. C'est l'image de cet élève idéal qui se dessine dans l'éther quand j'entends prononcer la phrase « Je dois tout à l'école de la République ». Je n'en remets pas en cause la gratitude de celui qui la prononce. Mon père était ouvrier et je dois tout à l'école de la République. Je ne minimise pas non plus les mérites de l'école. Mais c'est plus fort que moi. Dès que j'entends cette manifestation publique de gratitude, je vois se dérouler un film à la gloire de l'école, certes, mais à celle de cet enfant surtout qui aurait compris dès sa première heure de maternelle que l'école de la République était prête à lui garantir son avenir pour peu qu'il fût l'élève qu'elle attendait de lui. Et honte à ceux qui ne répondent pas à cette attente-là. Alors une petite voix se met à commenter le film dans ma tête. Excellents élèves, Kaina, Mine, Pierre, Jérôme ou mon amie Françoise qui a pris tout en jouant dès sa petite enfance sans la moindre inhibition. Fils ou filles d'immigrés, d'ouvriers, d'employés, de techniciens, d'instituteurs ou de grands bourgeois, très différents les uns des autres, ces amis-là, mais excellents élèves tous. C'était bien le minimum que l'école de la République vous repère, eux et toi, et qu'elle t'aide à devenir ce que tu es.
Il n'aurait plus manqué qu'elle te rate. Tu trouves qu'elle n'en laisse pas assez sur le bord du chemin, l'école de la République ? En l'honorant à l'excès, c'est toi que tu flattes en douce. Tu te poses plus ou moins consciemment en élève idéal. Je dois tout à l'école de la République. Serait-ce que tu voudrais faire passer tes aptitudes pour des vertus ? Réduire ta réussite à une question de volonté, de ténacité, de sacrifice, c'est ça que tu veux ? Il est vrai que tu fus un élève travailleur et persévérant et que le mérite t'en revient. Mais c'est aussi pour avoir joui très tôt de ton aptitude à comprendre, éprouver dès tes premières confrontations au travail scolaire la joie immense d'avoir compris et que l'effort portait en lui-même la promesse de cette joie. À l'heure où je m'asseyais à ma table, écrasé par la conviction de mon idiotie, tu t'installais à la tienne en vibrant d'impatience. Impatience de passer à autre chose aussi, car ce problème de maths sur lequel je m'endormais, tu l'expédiais, toi, en un tournement. Nos devoirs, qui étaient les tremplins de ton esprit, étaient les sables mouvants où s'enlisait le mien. Il te laissait libre comme l'air, avec la satisfaction du devoir accompli, et moi, hébété d'ignorance, maquillant un vague brouillon en copie définitive. À l'arrivée, tu étais le travailleur, j'étais le paresseux. C'était donc ça, la paresse ? Cet enlisement de soi-même ? Et le travail, qu'était-ce donc ? Comment s'y prenait-il ceux qui travaillaient bien ? Où puisait-il cette force ? Ce fut l'énigme de mon enfance. Cette passion de comprendre, tu l'as entretenue avec détermination ta vie durant, et tu as rudement bien fait. Elle brille encore aujourd'hui dans tes yeux. Celui qui te la reprocherait serait un envieux imbécile, mais je t'en prie. Cesse de faire passer tes aptitudes pour des vertus. Ça brouille les cartes. Ça complique la question déjà fort complexe de l'instruction. Sais-tu ce que tu étais en réalité ? Tu étais un élève friandise. C'est ainsi que, professeur, j'appelais mes excellents élèves, ces perles rares, quand j'en trouvais dans ma classe. Je les ai beaucoup aimés, mes élèves friandises. Ils me reposaient des autres et me stimulaient. Celui qui pige le plus vite, répond le plus juste et avec humour souvent, cet œil qui s'allume et cette discrétion dans l'aisance qui est la grâce suprême de l'intelligence. Oui, j'ai toujours aimé les bons élèves et je les plains aussi. Car ils ont leurs propres tourments. Ne jamais décevoir l'attente des adultes, s'agacer de n'être que second quand ce crétin d'un tel monopolise la première place, s'ennuyer un peu en classe. Portrait d'un élève friandise, Philippe, en sixième, dans les années 75. Un filiforme Philippe de 11 ans, aux oreilles perpendiculaires, doté d'un énorme appareil dentaire qui le faisait zézéyer comme une abeille. Je lui demande s'il a bien assimilé cette notion de langage propre et de langage figuré dont nous parlions la veille. Langage propre et langage figuré, parfaitement, monsieur, j'ai plein d'exemples à vous proposer. Je t'en prie, Philippe, nous t'écoutons. Bon alors voilà, hier soir, il y avait des invités à la maison. Maman m'a présenté en langage figuré. Elle a dit « C'est Philippe, mon petit dernier, il a un appétit d'oiseau ». C'est idiot, les oiseaux mangent une fois leur poids par jour, à ce qui paraît, et moi, je mange presque rien. Elle a dit que j'étais toujours dans la lune, alors que j'étais là, à table avec eux. Puis elle a parlé en langage propre. Tais-toi, essuie-toi la bouche, ne mets pas tes coudes sur la table, dis bonsoir et va te coucher. Je ne sais pas ce qu'est devenu mon zozotant Philippe, archétype de l'élève friandise. À quoi passe-t-il sa vie ? Professeur, j'aimerais. Ou mieux, chargé à Normale Sup ou dans un IUFM à former les professeurs à la réalité des élèves tels qu'ils sont. Mais peut-être Philippe a-t-il perdu ses dons pédagogiques ? Peut-être l'a-t-on jugé trop inventif pour enseigner ? Peut-être s'est-il endormi ? Peut-être s'est-il envolé ?
France Inter, Guillaume Gallienne, ça peut pas faire de mal ?
J'habite au sixième. Une chambre sans vue, à la semaine ou la rue, je laisse mes quatre murs entre eux. Quand le ciel est bleu, je prends un parapluie pour deux. Quand le ciel est pluvieux, avec toi, on est pas pieds nus pour aller dans la rue. On n'est pas pieds nus. Je descends sans lumière à cause du propriétaire. Crédit est mort, je paye au lance-pierre. Je laisse mes quatre murs entre eux. Quand le ciel est bleu, je prends un parapluie pour deux. Quand le ciel est pluvieux, avec toi, on n'est pas pieds nus pour aller dans la rue. On n'est pas pieds nus. percer les murs sont noirs et les filles sont douces. Sur ces fonds repoussoirs, je laisse mes quatre mais entre eux. Pour les mauvais trottoirs, je prends un parapluie pour deux. S'il commence à pleuvoir, allez viens, on n'est pas pieds nus pour aller dans la rue. On n'est pas pieds nus. Allez viens, on n'est pas pieds nus pour aller dans la rue. On n'est pas pieds nus.
Retrouvons un peu de tendresse en compagnie de la vieille mère du narrateur. Avec Malice, l'écrivain mesure tout ce qui sépare la jeunesse actuelle de sa propre jeunesse. Dans le passage suivant, il adresse à sa mère une question qui lui brûle les lèvres. Les adultes, même s'ils s'en défendent, n'y peuvent pas grand-chose. Ainsi va la société marchande. Aimer son enfance, c'est aimer ses désirs, lesquels s'expriment comme des besoins vitaux, besoins d'amour ou désirs d'objets. C'est tout comme, puisque l'épreuve de cet amour passe par l'achat de ces objets. Le désir d'enfant. Tiens, voilà une autre différence entre l'enfant d'aujourd'hui et celui que je fus. Ai-je été un enfant désiré ? Aimé, oui, à la façon de ma lointaine époque, mais désiré. Quelle tête ferait ma vieille maman dont nous venons de fêter les 101 ans, décidément j'écris ce bouquin trop lentement, si je lui demandais en passant « À propos, ma petite mère, m'as-tu désiré ?»« Oui, tu m'as bien entendu, et j'étais un enfant expressément voulu par toi, par papa, par vous deux. » Je vois son regard se poser sur moi. J'entends le long silence qui s'ensuivrait, et question pour question, elle me rétorquerait « Dis-moi, tu t'en sors bien, toi, dans la vie ?» Si je creusais un peu plus, j'obtiendrais à la rigueur quelques précisions événementielles. C'était la guerre, ton père était en permission, puis il nous a déposés à Casablanca, tes trois frères et moi, pour aller débarquer avec la 7e armée américaine en Provence. C'est à Casablanca que tu es né, toi. Mais savoir si je fus désiré, non. Il y avait un adjectif pour qualifier ces questions à cette époque et dans ma famille. Elles étaient saugrenues. Nous voici parvenus à la fin d'une belle histoire, celle d'un cancre devenu professeur puis écrivain. Retrouvons le narrateur en compagnie de son épouse lors d'un séjour à la montagne dans la région qu'il préfère, le Vercors. Ce massif lui inspire une ultime consolation qui vient clore chagrin d'école. Pas d'écriture ce matin. J'ouvre la lucarne nord et la double fenêtre sud, je replonge dans notre lit. Et nous voilà occupés pour la matinée à regarder des escadrilles d'hirondelles traverser notre piaule, silencieuses tout à coup, intimidées peut-être par ces deux êtres qui les passent en revue. Seulement de part et d'autre de la double fenêtre, deux minces fenestrons verticaux restent fermés. L'espace est vaste entre les deux fenestrons, de quoi livrer passage à tous les oiseaux du ciel. Pourtant, ça ne rate jamais. Il faut toujours que trois ou quatre de ces idiotes hirondelles se payent les fenestrons. C'est notre proportion de cancre, nos déviantes. On n'est pas dans la ligne. On ne suit pas le droit chemin. On batifole en marge. Résultat, fenestron, pac, assommé sur le tapis. Alors l'un de nous deux se lève, prend l'hirondelle estourbie au creux de sa main, ça ne pèse guère, ses os pleins de vent, attend qu'elle se réveille et l'envoie rejoindre ses copines. La ressuscitée s'envole, groggy encore un peu, zigzagant dans l'espace retrouvé, puis elle pique droit vers le sud et disparaît dans son avenir. Voilà, ma métaphore vaut ce qu'elle vaut. Mais c'est à cela que ressemble l'amour en matière d'enseignement, quand nos élèves volent comme des oiseaux fous.
Ça se soigne un chagrin d'école ?
Ça se soigne par de l'amour. Alors, la question, le problème, c'est que cet amour n'est pas de nature affective. C'est l'amour de la matière, l'amour de la transmission, et une grande curiosité pour l'auditoire, c'est-à-dire la classe. Et la classe telle qu'elle est. Et dans la classe telle qu'elle est, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, en écrivant un livre au Blanc-Ménil, une prof qui m'avait invité parce qu'elle faisait plancher ses gosses sur mes bouquins. Et elle disait, vous comprenez, une classe, ce n'est pas un régiment. C'est un orchestre, avec tous les instruments possibles et imaginables. Il suffit de repérer l'instrument. Et le tout, c'est de chercher une harmonie. Et l'harmonie, c'est quoi ? L'harmonie, c'est l'assimilation du savoir unique que nous allons donner à ces gens si différents les uns des autres, qui ont des niveaux si différents, des aptitudes, pourvu qu'ils aient le même savoir et que l'ensemble de la classe... Voilà, elle était formidable, elle.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission, réalisée par Xavier Pestugia avec Pascal Bénard à la technique, a été préparée par Estelle Gap, Leila Kourousselikoua, Perrine Malinge, Claire Tesser et Fanny Leroy. Bonne soirée et à la semaine prochaine.